Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top, alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour.
Bonjour chers auditeurs.
Bonjour les amis.
Fidèles auditeurs.
Et oui, fidèles auditeurs.
Nombreux.
Nombreux.
Très nombreux.
Ouh là là, c'est...
Nous avons des fans.
Eh oui, oui. C'est dur d'ailleurs de se déplacer dans la rue
maintenant. Ah bah, oula.
Nous n'en parle pas.
Alors, qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui, Anne-Marie?
Alors moi, je vais vous parler de pouvoir.
Mmh. Je crois qu'on reste un petit peu dans la suite de ta...
C'est ça, je suis cohérente.
T'as mis ta cape?
Il y a 15 jours, je vous ai parlé des astrologues. Et bien là, je vais vous parler de pouvoir. Mais tu verras, Caroline, c'est pas vraiment des pouvoirs magiques. Comme
c'est pas des super pouvoirs, zut.
Il n'y a pas de super héros dans la chronique.
Ah, je t'aurais bien vu en Superwoman avec ton lasso sur le côté, là.
Et toi, alors, Guillaume, tu nous parles de pouvoir?
Non, moi je vais vous parler de cinéma avec un film qui est encore à l'écran cette semaine et je crois que Caroline l'a vu aussi.
Ouais, tout à fait.
Donc comme ça nous aurons deux avis.
Très bien. Et justement, Caroline?
Ben moi, ça sera un petit coup de gueule. Très mal préparé, je vous préviens, mais coup de gueule quand même sur cette drôle d'époque que nous vivons.
Mais ça fera du bien aussi.
Ah, ben ça fera du bien, c'est sûr.
Il faut dire non.
C'est sûr. Ah, quand même, je dois dire, je suis un peu déçue parce que je trouve que ça fait quand même un certain temps que Guillaume ne nous a pas parlé infidélité. Alors, je ne sais pas si Ludo lui envoie toujours des mails, mais ça commence à manquer quand même.
C'est vrai que je n'ai plus une mail.
Alors...
C'est dommage.
Ouais, franchement.
Mais on pourra y travailler.
Pense-y,
si
franchement.
J'y travaillerai. Ça marche.
Actuel et lui.
Alors on va tout vous dire, on a eu un petit changement technique pendant le jingle. Voilà.
Ouais, on me donne du matériel qui ne marche pas.
Voilà,
on a juste changé de micro, mais pas de chroniqueur, c'est le
ça,
principal.
C'est ça. Voilà. Allez, on commence avec toi Anne-Marie,
oui.
Et donc nous parlons de pouvoir.
Et donc comme je disais effectivement à Caroline il y a 2 minutes de ça, il n'y aura pas de David Copperfield ni de Mesmer dans ma chronique portant sur les pouvoirs. Par contre, je vais plutôt vous parler de rebooteux, magnétiseurs et hypnotiseurs. On les consulte pour diverses raisons. Alors, pour arrêter le feu, pour dire bye-bye aux verrues, aux zonas ou à l'herpès. On les consulte aussi lorsqu'on est stressé ou nerveux. Évidemment, certaines personnes pensent que ce sont des charlatans, que l'on accuse parfois de sorcellerie même. D'autres, au contraire, croient en leur pouvoir. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on fait quand même appel à eux, parfois même dans des hôpitaux. Alors, c'est de façon évidemment très encadrée. Mais voilà, petit à petit, en tout cas, on les invite dans la société et on les reconnaît surtout. Mais avant de commencer cette chronique, j'avais envie de savoir justement ce que toi, Caroline, et ce que toi, Guillaume, en pensais justement de tous ces rebouteux.
Ah bah moi, j'y crois beaucoup et je pourrais même... Mais j'ai vu que tu allais en parler, donc j'attends, je ne veux pas déflorer ta chronique, mais j'aurais même une petite anecdote à vous raconter, si vous voulez.
Ah bah, avec plaisir. Et toi, Guillaume?
Oui, moi, je pense qu'effectivement, comme partout, il y a des charlatans, mais il y a aussi des gens qui, effectivement, ont des pouvoirs.
Oui, puis je pense aussi qu'il y a des choses qui nous dépassent.
C'est ça.
On n'arrive pas à mettre des mots, mais il doit bien se passer quelque chose quand même, puisque des personnes en sont satisfaites. Donc, voilà.
On commence en parlant avec des... En parlant, pas avec, mais en parlant des magnétiseurs.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, est-ce qu'ils ont un don? Alors, on ne parle pas forcément de don, alors ça dépend, mais on parle surtout de fluide. Hein. Un fluide, finalement, que tout le monde posséderait. Il est plus ou moins développé selon les personnes, et donc ce fluide permettrait de rétablir l'harmonie, l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, mais d'où provient ce fluide? Il y aurait donc trois cas concernant...
Et on se pose la question.
...sa provenance. Donc certains disent que c'est un pouvoir hérité d'ancêtres, donc transmis de génération en génération par un parent, grand-parent, ancêtre plus lointain. Pour d'autres, ce pouvoir de magnétisme est en chacun de nous et donc doit être travaillé, développé au contact d'autres magnétiseurs à l'aide de lectures ou de stages, de formations. Et puis enfin, il y en a d'autres qui disent que finalement c'est un don divin. Donc pas besoin de forcément aussi de le travailler, mais en tout cas il est là en nous. Mais une chose est sûre, c'est que leur point commun, donc, c'est la transmission d'énergie, puisque le magnétiseur travaille avec l'énergie et transmet cette énergie. Il récupère les énergies négatives du patient pour le décharger de son mal. Il s'agit d'un échange, d'une distribution entre le magnétiseur et son patient. C'est la différence avec un guérisseur qui a plusieurs méthodes à sa disposition, comme l'utilisation par exemple de plantes, de prières, d'incantations. Un magnétiseur, lui, n'utilise que ses mains pour transmettre les énergies et le souffle aussi. J'ai vu. Alors, t'as pas intérêt de manger de l'ail avant, quoi. Alors, sachez qu'en France, le magnétisme n'est pas reconnu par l'Académie de médecine et les médecins n'ont donc pas le droit d'envoyer leurs patients vers un magnétiseur selon l'article 4127-39 du Code de la santé publique.
On est précis sur 48.
Exactement. Ah bah oui. Cependant, effet placebo ou pas, des personnes s'en remettent au magnétiseur pour soulager leurs maux. Alors, je le dis et je le reprécise et je le redirai s'il le faut. Même si on n'est pas bien, qu'on va voir un magnétiseur, il ne faut évidemment pas arrêter son traitement médical quand on a vu son médecin. Voilà. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie de dire, l'un s'ajoute à l'autre. Voilà. En tout cas, c'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a effectivement 3500 ans, les prêtres égyptiens pratiquaient déjà l'imposition des mains. Par ailleurs, durant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, suite à l'emploi sur les fronts de tous les médecins diplômés de facultés de médecine, les magnétiseurs ont beaucoup pratiqué auprès de la population, puisqu'évidemment, il n'y avait qu'eux, en fait, pour soigner les gens. Alors désormais en Allemagne, même s'ils ne sont pas considérés comme des médecins, les magnétiseurs exercent dans les hôpitaux, les cliniques et sont remboursés par la plupart des mutuelles. La situation est la même en Italie et en Suisse, au Canada ainsi qu'aux États-Unis et en Scandinavie. Devant la multiplication des pratiques et praticiens, une législation est en cours d'élaboration visant à délimiter le cadre de pratique, évidemment pour éviter un amalgame entre les praticiens et tous ceux qui voudraient profiter du système. Donc des escrocs en tout genre. Mais dans tous les cas, un magnétiseur n'est pas un médecin. Il ne soigne pas le corps, mais l'âme. Voilà, on est bien d'accord sur ce point. On continue à prendre ses médicaments prescrits par son médecin.
Bon, alors le magnétisme, c'est une chose, mais ce n'est pas, c'est pas la seule technique, la seule...
Oui.
La seule utilisation de pouvoir.
Voilà, c'est ça. Parce qu'un guérisseur, au sens large, alors c'est une personne qui fait profession de guérir sans avoir la qualité officielle de médecin et par des moyens non reconnus par la médecine. Donc ça, c'est effectivement la définition du petit Robert. Donc,
salut.
Voilà. et en fait, donc, il existe effectivement de nombreuses techniques de soins qu'on appelle donc le magnétisme, la géobiologie également, à savoir la connaissance de l'influence énergétique de l'environnement, détection des pollutions électromagnétiques. Il y a aussi le rebootement, on parle souvent des rebooteux, qui est la libération des tensions provoquant donc des douleurs articulaires. C'est un traitement des foulures et entorses par des techniques manuelles empiriques. Sachez qu'au Moyen-Âge, en Europe, il n'existait pas de frontières définies entre les médecins, guérisseurs et sorcières. Puis, évidemment, petit à petit...
Oula, là, on t'a perdu. Je pense qu'on a un petit... voilà, ça va être mieux, peut-être.
Je suis là ?
Non.
Je suis plus là. Vous m'entendez ?
Oui, c'est bon. Oula, je crois qu'on a des petits problèmes dans les câbles, mais c'est pas grave. Vas-y.
Je suis toujours là. Hein.
Oui, t'es toujours là. Mais touche pas le micro.
L'hypnoptiseur, là.
Oui, si ça se trouve, c'est mon fluide. Hein.
C'est ça, je pense que c'était fluide.
Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans cette pièce du studio de 48 FM. Si je vous transforme en lapin, il ne faudrait pas se demander pourquoi. Donc, je disais qu'effectivement, au moyen
de ça...
Pourquoi un lapin ? Je ne sais pas. C'est la première idée qui m'est venue, c'est lapin. Je ne sais pas.
D'accord, bon, ok. C'est peut-être la rue des clapiers.
C'est peut-être ça. Donc voilà, je disais qu'au Moyen-Âge en Europe, il n'existait donc pas de frontières définies entre les médecins, les guérisseurs et les sorcières. Puis petit à petit, on s'en doute, la médecine s'est éloignée à la fois des croyances spirituelles et du charlatanisme. je le disais aussi il y a deux semaines de ça par rapport à l'astrologie, vous vous en souvenez, l'astrologie et l'astronomie ne faisaient qu'une matière finalement. C'était donc voilà, à l'époque, il y avait moins de réticence quand même de la part des médecins. Donc dans le monde occidental, les guérisseurs, les héritiers de pratiques ancestrales des sociétés traditionnelles peuvent être donc magnétiseurs, radiesthésistes, rebouteux, exorcistes. Dans les sociétés traditionnelles d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, considérés comme sorciers ou voyants, les guérisseurs sont généralement des chamans. Les guérisseurs des Philippines et du Brésil sont parfois appelés chirurgiens psychique. En Suisse, il en existe différentes catégories, les coupe-feux, les faiseurs de secrets, selon les problèmes de santé. Voilà. Bon, donc on voit qu'il y en a un peu partout et qu'on les appelle différemment, mais que voilà, le but est le même, hein, c'est toujours soigner la personne, soulager ses douleurs.
Alors là, maintenant, on en voit aussi qui font des shows, on va dire, mais peut-être que tu vas nous parler plutôt d'une pratique médicale autour des hypnotiseurs.
Voilà, exactement. C'est pour ça que je disais que je ne vais pas vous parler de mesmer avec l'hypnose, qui en tout cas, là, dans cette partie-là, n'est pas, évidemment, n'a rien à voir avec la magie, mais plutôt une notion de confiance, effectivement, qui est importante entre l'hypnotiseur et le patient, parce que vous allez comprendre comment ça marche. L'hypnose, en tout cas, on en fait appel en France de plus en plus dans certains hôpitaux, encore une fois quand c'est très encadré, et vous allez comprendre pourquoi. Donc il faut savoir que l'hypnose a fécondé de nombreuses approches thérapeutiques, hein, directement ou non. Elle a été utilisée par Freud, par exemple, à ses débuts, auprès de patientes hystériques, dans la tentative de retrouver l'événement traumatique supposé donc à l'origine des troubles. Finalement, Freud abandonne cette pratique de l'hypnose qu'il qualifie de manipulation du sujet. Cependant, l'hypnose est aussi à l'origine de la sophrologie, méthode plus récente, hein, qui date de 1961, ainsi que d'autres techniques de relaxation. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour des personnes qui ont le cancer et qui sont très fatiguées par des traitements qui sont lourds, généralement, on fait appel à des sophrologues ou donc à des hypnotiseurs. Donc l'hypnose est aujourd'hui un des outils de psychothérapeute. Les indications sont très larges et concernent en fait une gamme de problématiques humaines, psychologiques et somatiques. Donc ça va des angoisses et des troubles névrotiques, pour les personnes aussi qui aimeraient perdre du poids, arrêter de fumer, pour les personnes qui sont stressées, qui doivent faire face à un deuil ou qui sont aussi insomniaques, on fait appel à un hypnotiseur. Donc l'hypnose est également reconnue pour ses effets analgésiques, car elle permet de modifier radicalement la perception sensorielle et la perception de la douleur. Donc l'utilisation des techniques d'hypnose en anesthésie date en réalité du 19e siècle. On parle alors d'hypnosédation. L'hypnosédation étant une technique d'anesthésie qui consiste à combiner une anesthésie locale avec une hypnose et une sédation consciente à base d'antidouleur. Plusieurs bénéfices sont reconnus à cette technique, hein, l'amélioration du confort du patient lors de l'opération, une diminution de l'anxiété et de la douleur, une diminution évidemment des médicaments administrés, une optimisation des conditions chirurgicales ainsi qu'une récupération plus rapide du patient après l'opération. On parle donc d'hypnothérapeute. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà fait opérer si vous avez été endormi grâce à l'hypnose.
Non.
Mais ça doit être très particulier, mais en tout cas, effectivement, on sent qu'il y a plusieurs bénéfices, hein, puisque je vous dis, c'est vrai que, disons que quand on se fait endormir comme ça pour une opération, après on a du mal à s'en remettre, c'est quand même toujours une épreuve éprouvante. Et c'est vrai qu'on tend plus maintenant vers l'hypnose pour aller mieux. Donc, évidemment, alors, vous allez peut-être me poser la question, comment on fait ? Parce que c'est bien beau de parler. Mais
parce qu'on aimerait bien t'hypnotiser pour la suite de l'émission.
Alors, si tu veux, mais je pense quand même qu'il faut des techniques que tu n'as peut-être pas encore, Guillaume.
Mais vas-y, forme-nous, Marie.
Oui, enfin, moi, je ne suis pas professionnelle. Hein, je vous dis juste comment ça se passe. Et vous allez voir, c'est quand même assez compliqué, me semble-t-il. Mais bon, après, voilà. Donc, pour accéder à l'inconscient du patient, l'hypnothérapeute provoque un état de transe, puisque c'est bien ça le souci, c'est d'accéder à cet état d'inconscience. Alors, l'état de transe désigne tout simplement ce moment où l'attention est totalement focalisée sur un point précis, au point d'en oublier tout ce qui nous entoure. Bah, par exemple, quand on lit, c'est ce qui se passe. La maison d'à côté pourrait brûler, on est plongé plongé dans notre livre et on ne fait plus du tout attention à ce qui se passe autour de nous. Donc le rôle de l'hypnothérapeute est donc d'aider à se focaliser sur un point précis, au préalable déterminé entre le patient et l'hypnose et l'hypnotiseur. Je vais y arriver. Plus l'état de transe est profond, plus il sera facile d'accéder à son inconscient. Voilà. Donc l'hypnotiseur va donc raconter quelque part une histoire au patient pour qu'il puisse s'évader et ne s'intéresser qu'à cette histoire. Ce qui fait qu'après on pourra effectivement l'opérer. Il ne sentira même plus la douleur. Même si, je le répète, il y a opération sous hypnose avec quand même des médicaments à côté. Voilà. Il n'est pas lâché complètement, le patient n'est pas complètement lâché dans un état de transe.
Est-ce qu'il n'y a pas des risques de finalement de te faire inculquer pendant ces moments de transe, je ne sais pas, des faux souvenirs, ce genre de choses
Du coup, on ne parle pas de souvenirs. Là, c'est vraiment, il va te raconter une histoire. Moi, je ne sais pas, il va te dire, au préalable, il y a un rendez-vous. Si tu dis à ton hypnotiseur, moi, j'aimerais, par exemple, aller sur une île déserte, j'en sais rien. Il va te faire aller sur cette île déserte. Je ne suis pas sûre qu'après, tu aies des souvenirs réellement de cet état de transe, si tu veux. Tu comprends ?
Oui, non, mais de ce qui se passe après, en fait.
Comment ça ?
Pendant le... Non, bon, c'est pas grave.
Mais si, exprime-toi, oui, mais Guillaume.
Non, je sais pas. C'est un moment où tu acceptes de
finalement. Tu te livres complètement.
Voilà, c'est ça.
C'est
tu
pour ça que
ton
je
livre
disais, voilà.
Peu, donc tu te dis.
C'est pour ça que je disais qu'il faut
qu'est-ce
avoir.
Qu'est-ce que la personne va en faire, quoi.
C'est pour ça que je te disais qu'il faut avoir une totale relation de confiance aussi avec la personne qui pratique ça, parce qu'effectivement, tu laisses ton inconscient quelque part à cette personne étrangère, quoi. C'est pas facile.
Moi, je suis totalement réfractaire à ça, mais bon.
Oui, parce que enfin voilà.
Mais je pense quand même que ça peut aider.
Ah oui, non, mais après,
Et si justement on fait rentrer de plus en plus d'hypnotiseurs, encore une fois, dans un cadre, c'est très délimité dans certains hôpitaux et cliniques, je pense quand même, parce que les médecins ont trouvé que...
Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Après, je pense que j'aurais du mal à m'y livrer.
Ah, mais moi, c'est pareil. Par contre, là, de ce côté-là, je...
Bon, alors par contre...
Ton anecdote.
Oui, voilà. Hein, parce que elle nous a été promise maintenant.
C'était pas du tout sur l'hypnose, c'était plutôt sur la radiesthésie dont tu as parlé précédemment. Quand j'étais étudiante en journalisme à Tours, on a eu pour un concours à travailler sur cette thématique-là. Et je vais vous faire rire parce que j'ai rencontré un radiesthésiste, un sourcier qui trouvait de l'eau, donc... qui était un vigneron de Chinon. Donc c'était drôle, déjà, je trouvais. Et donc il m'a reçu chez lui. Il m'a fait une démonstration. Alors bien évidemment, c'était un peu truqué parce qu'il savait où était l'eau. Hein. On n'est pas parti en chercher au milieu du désert. Et il avait donc sa baguette de noisetier pour trouver l'eau. Et il me l'a mis entre les mains. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti quelque chose. Quoi. C'est sa baguette de sorcier, Anne-Marie. Ça y est, ça dégénère.
C'est Anne-Marie qui a commencé.
On ne peut rien raconter dans cette émission.
Et donc, tu as trouvé.
Et donc, moi aussi, j'ai trouvé l'eau avec sa baguette de sorcier.
Il y avait des drôles de sensations.
Oui. Je ne vais pas insister, mais la baguette s'est levée, quoi. C'était mon fluide, certainement.
T'es sûr que c'était la baguette?
Bon. Non, mais est-ce que c'est après que nous sommes allés boire dans sa cave?
Voilà.
Vraiment, j'y crois.
Ok.
Mais je crois vraiment, je crois à la médecine chinoise, à tout ce travail sur les influx et les flux, les différents points de magnétisme, justement, ces choses comme ça. Je pense que vraiment, ça fonctionne.
Mais l'univers fonctionne. On voit quand même qu'on se tourne de plus en plus vers la médecine douce, en règle générale. C'est sûr que.
Tout à fait. Bien, Marie, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter aujourd'hui ?
Alors, une chanson qui n'a strictement rien à voir avec ma thématique.
Lève ma baguette, ça aurait été bien.
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup, beaucoup de reprises et ça m'insupporte, je vais vous dire. On fête les 30 ans, c'est ça, de Balavoine ?
J'ai juste programmé une reprise pour la chanson d'après.
Ah bah pardon, mais moi ça m'agace parce que Balavoine...
Non mais c'est surtout qu'on fait chanter ça à n'importe qui.
À n'importe qui et c'est sans arrêt. Donc c'est Balavoine, c'est Goldman, c'est Renaud, bon ça m'agace. Ça m'agace parce qu'il n'apporte rien à ces chansons. Et là, je vais vous faire écouter La Reine de Joey Starr et Natty. qui reprennent la foule d'Edith Piaf. Et pour moi, là, ils apportent vraiment quelque chose. Ils apportent leur signature. Et je trouve que c'est une œuvre très réussie. Et pourtant, je n'aime pas Joey Star. Donc...
Allez, on écoute, c'est parti.
Quand je rentre dans la rue, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le film me mène, je suis impérieux et je suis prêt. Des mesures bien huilées, la masse criminelle. Je suis porté, transporté, tu ne cesses de glisser. Tu ne peux que capituler, tu sais mon nom a rayonné. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Quand je rentre dans la reine, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN. En main dans l'arène, nous sommes des seigneurs. Portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs.
Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés.
Je suis marqué au fer, c'est comme si je t'échappais terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble les foules. C'est comme si le monde était en feu, comme on offre trois les boules. J'assure les arrières, voilà deux décrépitudes. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC se chie dessus. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC se chie dessus.
Maintenant, j'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. Jeune petite envie polaire, pareil pour la guerre et pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. Là-bas, ouais, je suis dans l'arène, comme un dieu qui s'amène. Le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine, mon son règne. Domine, je suis un seigneur, je marche plus, je l'évite.
Oh, par les fleurs, les filles et guerres et clubs. En main dans l'arène, nous sommes des seigneurs. Portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs. Par les fleurs, filles et guerres et clubs. En main dans l'arène, nous sommes des seigneurs. Portés par le pouvoir, pire qu'un gladiateur. Dans l'arène, nous sommes les seigneurs.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, on se retrouve sur 48 FM dans cette deuxième partie d'Actuel et lui.
Je voulais dire autre chose, mais bon.
On n'a pas changé de radio, c'est toujours 48 FM.
Et
c'est toujours Actuel et lui.
Je ne savais pas si mon micro marchait.
Ah. Oui, si, c'est bon. Et tant que tu n'y touches pas, ça marche.
Et on continue avec toi, Guillaume, puisque tu veux nous parler cinéma.
Tu es donc allé au ciné ce week-end.
Et oui, je suis allé au cinéma hier après-midi, dimanche après-midi. Mais comme nous avons enregistré cette émission mardi, ben voilà, je suis perturbé. Vous savez, le timing, c'est toujours un problème dans cette émission. Donc oui, je vais vous parler du film Le Grand Partage, le quatrième long-métrage d'Alexandra Leclerc. Après Les Sœurs Fâchées en 2004, Le Prix à payer en 2007 et Maman en 2012. Alors, comme ces dames mangent, je vous évidemment.
Mais j'en avais vu aucun des trois premiers.
Il y avait la question.
Qui et donc, devait... c'est quoi l'histoire de ce film?
Voilà,
parce
merci.
Parce que c'est bien beau de nous parler de ce film.
Voilà, c'est Anne-Marie et ses pouvoirs.
Je n'ai pas touché.
Si. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est un hiver pire que jamais. Le gouvernement qui publie un décret obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation précaire. À l'heure du grand partage, un vent de panique s'installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale. Grégory Bretzel, un bourgeois bohème qui dispose de cet espace, est heureux enfin de mettre en application ses idées. Sa femme, Christine, est beaucoup moins enthousiaste. Pierre et Christine Dubreuil, de leur côté, assument leur côté grand bourgeois et comptent bien contourner la loi. Ils ont trouvé comme solution d'accueillir la mère de Pierre dans leur appartement et de loger leur bonne également. la gardienne de leur immeuble, raciste et acariâtre, peste tout en étant reconnaissante de n'avoir qu'un 25 mètres carrés.
Alors tu vas nous dire qui joue quoi dans tout ça, parce que quand même, c'est important.
Oui, je vous dirai ça tout de suite après.
Très bien.
D'abord, je vais vous parler de la réalisatrice.
Oui, alors comment a-t-elle imaginé ce film, Guillaume?
Non, parce qu'ils veulent que je fasse ma chronique dans un autre ordre. Non, mais ça va plus.
Ouais, non, mais... Oh là là.
Un peu de liberté, un peu de folie, Guillaume.
C'est ça, de la folie. il y a 7 ans, en 2008, Alexandra Leclerc a écrit un premier synopsis d'une dizaine de pages qu'elle a ensuite soumis à un producteur. Malheureusement, son texte ne l'a pas convaincue et ce dernier lui a expliqué que son film ne pourra pas se faire. Le cinéaste a donc mis son idée de côté, le temps de réaliser son troisième long-métrage, Maman. Alexandra Leclerc a longuement hésité avant de se replonger dans l'histoire du grand partage. La réalisatrice n'a pas l'habitude de tourner avec beaucoup de personnages et est plutôt une adepte des huis clos. Elle dit « Je m'éloignais de mes sujets de prédilection ». Pourtant, après son long-métrage « Maman », elle souhaitait revenir à la comédie. Seule Alexandra Leclerc a écrit son scénario et l'a ensuite fait lire au producteur Philippe Godot qui a validé le projet. Dans ses précédents films, que j'ai cités tout à l'heure, Alexandra Leclerc traitait les conflits familiaux et sentimentaux, comme le manque d'amour d'une mère entre deux sœurs et les problèmes dans un couple. Avec ce quatrième long métrage, la réalisatrice a cette fois décidé de s'attaquer aussi aux conflits sociaux entre riches et pauvres, même s'il y avait aussi les conflits internes des différentes familles que j'ai présentées tout à l'heure. Alors, le grand partage, c'est l'occasion pour la réalisatrice et certains acteurs et actrices de travailler à nouveau ensemble. Alexandra Leclerc avait déjà mis en scène Josiane Balasko et Michel Villermoz dans Maman et Patrick Chenet dans Le Prix à payer. La cinéaste a aussi travaillé avec Villermoz dans Les Sœurs Fâchées. Le grand partage signe donc leur troisième collaboration. Didier Bourdon et Valérie Bonneton ont quant à eux déjà tourné ensemble il y a 7 ans dans Bouquet Final, mais aussi dans le plus récent Jackie au Royaume des Filles. Et Karine Viard, elle, a joué avec Bonneton en 2011 dans la pièce de théâtre L'amour, la mort, les fringues, mis en scène par Daniel Thompson, et avec Josiane Balasko dans le film L'ex-femme de ma vie. Alors, voilà, ça fait beaucoup d'acteurs hein, qui ont été cités. Donc,
dis-nous un peu qui fait quoi.
Voilà. Beaucoup d'acteurs connus.
Eh oui.
Ah, il y a une distribution, c'est vrai que c'est...
Et
tu n'as pas parlé, tu vas le faire certainement là, mais... de la voisine qui déménage et qui les observe tous de sa fenêtre.
Oui, je vais vous en parler.
Bon.
Donc, Karine Viard, c'est Christine Dubreuil, la bourgeoise, qui ne fait rien de ses journées, si ce n'est aller faire du tir à l'arc, aller chez le coiffeur, etc.
Bah, c'est une bourgeoise. Donc.
C'est ça. Didier Bourdon, c'est Pierre Dubreuil, donc l'architecte, qui lui est donc son mari et qui est le bourgeois de l'histoire.
Valérie et qui ramène le fric à la maison.
C'est ça, oui, clairement. Valérie Bonneton, c'est Béatrice Bretzel, la prof de fac avec...
De gauche,
avec ses grandes idées. Et puis vous verrez que, bon, qui n'est pas forcément...
C'est facile d'avoir les idées.
Voilà. Michel Villermoz joue Grégory Bretzel, l'écrivain de gauche, hein, avec ses grands idéaux. On reviendra un petit peu sur son personnage.
Qui écrit des merdes, il faut le dire quand même. Hein. Des merdes qui marchent, mais des merdes.
On reviendra un petit peu sur son rôle, puisque la réalisatrice a précisé ce qu'elle avait voulu faire à travers ce personnage. Josiane Balasko joue le rôle de gardienne raciste et acariâtre. Hein, tout à fait,
avec un physique du délire. Il faut accepter, en étant comédienne à son âge, de se présenter comme ça à la caméra. Quoi.
Tout à fait indiqué dans ce rôle.
L'élégance du hérisson. C'était pas elle?
Oui, si.
Même style.
Oui, non, mais... c'est ça. Mais... Voilà, c'est qu'elle accepte.
Non, mais elle a peur de rien, on le sait, quoi. Mais oui. Vraiment, là, c'est.
Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on l'aime autant qu'elle a autant de talent. Parce...
Bien sûr.
Voilà, Patrick Chenet joue Michel, le voisin, vieux beau, aristo homosexuel.
Fabuleux.
Anémone.
Donc la fameuse voisine.
Voilà, et Jackie Berroyer joue Brigitte et Serge Abramovitch. Donc voilà, un couple juif, et elle, son grand plaisir, c'est d'espionner ses voisins, voilà, en s'installant dans un studio en face au moment de ce grand partage.
Alors j'ai un peu la même réflexion que pour Josiane Balasko. Anémone, elle a quand même pris cher depuis quelques années. Mais bon, enfin, ça lui va super bien, quoi. Et elle assume ça avec beaucoup, beaucoup de talent.
Voilà, après Michel Moretti joue Françoise Dubreuil, la grand-mère qui avait été abandonnée dans une maison de retraite. Pauline Vaubaillon joue Audrey Dubreuil, la fille des Dubreuil qui est aussi clarinettiste. Firmine Richard joue Philomena, l'employée de maison antillaise des Dubreuil. Et Sandra Zidani, qui est une humoriste qui a été découverte aussi sur France 2 dans le cadre de On demande qu'à en rire, joue la SDF Madeleine, qui a une histoire à un moment avec Pierre Dubreuil, notre architecte bourgeois. Voilà, alors, Karine Viard se confie sur son rôle à Allociné. Je suis d'abord persuadé que c'est une femme qui existe, une sorte d'archétype de la société française, quelqu'un qui a été élevé pour être totalement subordonné à sa famille, à son mari, absolument pas dans l'idée qu'une femme doit être autonome. Christine obéit à des codes qui sont un peu vieille France. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine qu'elle ne sort jamais des quartiers chics et que l'idée d'aller vers Montreuil ou Belleville, c'est comme une expédition à Tombouctou. Voilà, je pense qu'il y a quand même de moins en moins de gens comme ça aujourd'hui, enfin, en tout cas, pour l'espérer.
Je ne suis pas sûre, Guillaume.
Je ne jurerai pas non plus.
Alors, le personnage de Grégory Bretzel, joué par Michel Villermoz, a été imaginé par Alexandra Leclerc comme une sorte de Frédéric Becbédé. Donc, c'est pour ça critique, je ne voulais pas. Voilà. Un genre de bobo du 6e qui continue d'acheter l'IB avec de grands cheveux. Un auteur très à la mode, qui a son public, mais qui en même temps ne se sent pas à sa place. Une sorte de Marc Lévy qui voudrait bien être Tolstoï. Un type aussi un peu lâche, planqué derrière son ordinateur. La confrontation donc, de Grégory à une réalité sociale épouvantable va le révéler. C'est aussi un personnage assez comique, explique le comédien. Alors, Michel Villermoz fait part aussi d'une anecdote personnelle. Moi-même, d'ailleurs, il y a des années, j'ai hébergé un sans-domicile fixe, sauf qu'à un moment, il a fallu lui faire comprendre que ce n'était que temporaire. C'est tout le combat entre la culpabilité et la réalité. Ce gars qui était chez moi s'y était vraiment installé, je n'arrivais pas à accepter de le virer. Le film parle aussi de ça, par la voix de la comédie, évidemment.
Michel Villermoz, qu'on voit énormément en ce moment au cinéma. Hein.
Et oui, c'est effectivement aussi un personnage qui est très identifiable,
oui,
qui
ouais, il a
un physique particulier.
Alors, tu l'as aimé ce film ?
Alors, pour moi, c'est pas vraiment le film de l'année. Sincèrement, c'est pas le film qui fait se rouler par terre.
Parce que moi, sur le papier, ça me donne envie.
Ah, le pitch donne envie.
Ça, que... c'est dans l'affiliation de. Je vais en parler dans un instant. De qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. On est dans cette logique là. Mais pour moi, il y a des choses qui manquent. On va y revenir. Alors. En fait, les sourires, parce qu'il n'y a pas vraiment de rire complet, les sourires en fait, reposent un peu sur des grosses ficelles, et j'y reviendrai. Et alors peut-être qu'on se retrouve aussi un peu gêné par la situation, à se demander quelle serait notre réaction si on était dans cette situation. C'est sûr que c'est une forme de critique de la société dont on fait partie, donc c'est peut-être aussi ça qui nous limite un peu dans cette approche-là, là où finalement on ne se sentait pas forcément avoir le même avis que Christian Clavier dans...
Je ne suis pas d'accord, il y a des fois des réflexions pareilles, elles étaient assez grosses, tu les voyais venir, mais...
Voilà.
Ils n'étaient pas dans le faux non plus, je pense que...
Alors, pour expliquer complètement, alors... ils sont obligés de recevoir des gens en situation précaire, mais des travailleurs. Hein. Mmh. C'est-à-dire des gens qui ont un salaire, mais pas un salaire suffisant pour se loger. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés recevoir des SDF. Donc déjà,
c'est un peu bizarre ce truc-là.
Ça pose ce problème quand même, qu'on a pu voir circuler par rapport aux réfugiés.
Bah, c'est ce que j'allais dire.
On oublie nos SDF et puis on accueille des réfugiés.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, tout le monde voulait accueillir les réfugiés. Je ne sais pas où on en est, mais
ça pose un peu cette problématique-là quand même, qu'on en laisse crever dehors alors qu'il y en a... Enfin voilà, c'est quand même... C'est un peu culpabilisant, c'est ce que tu dis. On se dit, bon...
Alors après, si on revient sur les ficelles, c'est quand même un empilement de stéréotypes... mais finalement de stéréotypes qui sont pas transcendés par quelque chose d'autre chose. Enfin, il y a pas de pointe de folie qui donne plus d'épaisseur ou d'intérêt au personnage, sauf pour le personnage de Valérie Bonneton. On y reviendra dans un instant.
Caricatural, pardon, aussi quand même.
Oui, mais qui a un petit peu plus d'épaisseur parce qu'elle est pas monolithique, quoi. Bon. Alors, comme l'évoque avoiralire.com, il s'agit d'un film de cohabitation, gauche caviar, droite, bobo bourgeois, précarité et richesse, avec des figures archétypales, comme la concierge nauséabonde, forcément raciste, son chat s'appelle d'ailleurs Jean-Marie, la bourgeoise au foyer frustré, qui s'excite toute seule devant un documentaire sur la vie conjugale, ou la bonne antillaise, à lire dans les deux sens du mot « bonne ». Au caractère bien trempé, sans oublier l'odieux patriarche friqué qui va toutefois renier ses préjugés en hébergeant contre sa volonté une sans-abri illuminée habitée par la truculence. Alors, et on peut, ça c'était la critique de avoir à lire.com, et on peut rajouter le couple de vieux juifs qui sont radins, qui ont donné aucune étrenne à la concierge.
Alors, faut dire que eux, quand la mesure tombe, comme ils ont un appartement un peu grand, ils préfèrent déménager dans un truc tout petit pour recevoir personne.
Voilà. Intéressés par les autres, le vieux beau aristo homosexuel prêt à vivre une histoire d'amour avec le premier sans-abri hébergé chez lui, même s'il a 20 ans de moins, le roumain qui en fait est moldave et qui cambriole ses hôtes. Enfin voilà, on en a empilé quand même une couche un peu trop. Mais moi, je suis assez d'accord avec avoir à lire.com, toujours, qui dit que finalement, seule Valérie Bonneton, possédée par les contradictions de son personnage de militante de gauche, et pourtant dans le refus catégorique du grand partage, finalement, ça lui donne un peu de méchanceté, d'aigreur, pour réellement nous faire un petit peu plus rire, et donner un peu plus de corps à ce personnage qui est un peu, enfin, sur lequel il y a un petit peu plus d'inattendu, finalement, que dans les autres qui sont vraiment dans leur rôle et qui changent finalement un peu. Après, finalement, le film met en exergue des personnages avec un regard assez péjoratif, sans avoir un renversement de situation total. Comme l'évoque José Morel de Criticat, au final, les riches vont mieux et les pauvres sont partis. Alors, je le cite. Un an après le raz-de-marée, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Après, je le refais. Un an après le raz-de-marée, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Le grand partage apparaît comme une nouvelle comédie parfaitement inoffensive dans sa forme et violente dans ce qu'il anime, tant le racisme et la haine de l'autre, les minorités, les étrangers, les SDF, constituent le moteur des dialogues et des situations. Il y a dans le film comme un malaise auquel il faut se confronter, qui dépasse simplement les petits constats populistes, comme la remarque de la fille bourgeoise à sa mère coincée, le bourgeois c'est celui qui a peur, et rejoint une crispation générale de la société, c'est ce que tu disais Caroline tout à l'heure. C'est d'ailleurs la trajectoire de l'intrigue, la rencontre avec l'autre permet à chacun à l'arrivée de surmonter ses petits tracas. L'écrivain bobo insomniaque boucle son roman et retrouve le sommeil, son épouse apprend à vivre en accord avec ses idéaux et à être une bonne mère, le couple bourgeois de droite recouvre sa libido, la concierge ouvertement raciste quant à elle tombe amoureuse d'un noir et partage sa culture. Tout ça pour ça, on peut dire un petit peu, le grand partage en question accouche d'une gigantesque colonie de vacances qui brusquement, à la faveur d'une ellipse, bascule sur une paix retrouvée. À l'exception du conjoint de la concierge, l'autre, dans sa globalité hein, qu'on évoquait précédemment, a soudainement disparu en faveur de cette coupe pour laisser les couples seuls, mais régénérés. Parenthèse refermée, une petite touche d'altérité permet d'apaiser, les mauvaises consciences sans que les inégalités ne soient pour autant abolies. Alors ce film est souvent comparé, on l'a dit, à « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Mais finalement, je trouve qu'il manque le positif de la situation. Finalement, les couples qui se forment, c'est du positif. Enfin, voilà, l'évolution des parents dans cette histoire-là, elle se fait aussi sur du positif et avec une notion de durable. Là, finalement, les pauvres finissent par disparaître. Et la situation négative du contexte n'est pas forcément résolue. Et elle contribue elle ne contribue pas à adhérer vraiment à l'histoire. Alors ça reste un divertissement, hein. Je veux dire, je ne me suis pas non plus ennuyé, je ne suis pas parti avant la fin, mais ce n'est pas le meilleur divertissement, me semble-t-il, ce n'est que mon avis, et je peux vous inciter donc à aller le voir en salle encore cette semaine à Mende. Hein.
Ou alors vous pouvez attendre le dimanche soir.
Voilà, vous pouvez attendre effectivement dans quelques semaines de le voir à la télévision. Voilà, donc un peu un regard... Alors je ne sais pas, Caroline, si tu partages...
C'est ça. Ce sentiment d'un peu d'un pitch très alléchant et qui va pas au bout des choses.
Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de folie à imaginer. Il y avait enfin des retournements. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage finalement. On est dans une œuvre de fiction. C'est dommage qu'à la fin, je sais pas, il redécoupe pas ses grands appartements pour installer des familles. Enfin, je pense qu'il y avait des choses à imaginer pour dire, oui, on continue à vivre à 50 au lieu d'être 10 dans l'immeuble. Enfin, il pouvait y avoir des choses qui pouvaient être imaginées. Et Et là, on finit en plus avec l'histoire d'un jeune breton, alors qui dans l'image est très maghrébin, hein, de peau, qui se retrouve logé gratuitement, certes, par la prof de fac, mais dans une chambre de bonne, sous les toits, avec. Il doit y avoir au moins 2 mètres carrés, loi Carrez, de disponible dans le truc. Donc, franchement, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait possibilité de faire mieux.
Bon, et alors, on va finir par une musique.
Oui, pas forcément de lien direct, mais une petite envie de reprise. Et donc, c'est Vincent Delerme qui reprend en live, qui reprend Anne Sylvestre dans Les gens qui doutent avec Albin de la Simone et Jeanne Chéral.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et voilà, on se retrouve.
Oh, quel soupir, hein, oui. Guillaume.
Bah oui, non, mais cette chanson n'était pas très. C'était pas la pêche absolue, mais
oui, puis ça
mais elle est très jolie.
Mais elle me plaît beaucoup, cette.
Oui,
cette,
oui c'est
j'avoue que c'est très jolie.
Voilà, bon, Anne-Marie a dit on va aller faire la sieste après, mais c'est pas grave.
Et oui.
Petite sieste d'un quart d'heure, ça fait du bien. Oui. Hein.
Voilà, et puis non, mais voilà, c'était l'humeur. Voilà.
Bon, allez, et ben, l'humeur de Caroline, en tout cas, c'est.
Maintenant.
C'est maintenant, et c'est un peu. Oui, je l'ai dit, c'est un peu coup de gueule, mais ça va bien avec finalement le choix de ton film.
Guillaume, de cette société quand même un petit peu, comment dire, un peu repliée sur elle-même, individualiste. J'entendais ce matin Bettina Reims, la grande photographe à qui la Maison de la Photographie de Paris consacre une grande rétrospective. J'en reparlerai en février parce que je pense que je vais aller la voir. Dire qu'effectivement, il y avait que les gens avaient peur finalement. Hein. On en parle depuis quelques mois à cette antenne, à ce micro.
C'est vrai. Après, moi, juste pour dire, je n'accueille personne chez moi. Enfin, on aimerait que les autres fassent le premier pas, alors que nous-mêmes, finalement, je ne suis pas sûre qu'on fasse grand-chose.
Ah non, mais on est bien d'accord. Mais... Et c'est bien tout le problème. Et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure de cette culpabilité qu'on peut ressentir, parce qu'on n'est pas toujours fier non plus de ce qu'on pourrait faire ou de ce qu'on est. En tout cas, il y a quand même ce repli, cet autre-là qui est étranger, alors qu'il y a différentes formes, et c'est de ces formes-là que je veux parler, parce qu'il y a quand même deux choses qui ont retenu mon attention dans l'actualité récente, dont on a énormément parlé, hein. Je ne vais pas faire un scoop à ce micro, mais enfin, alors... On est trop couillu à Angoulême, on n'est pas assez noir à Hollywood. Enfin, voilà, c'est quand même excédent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne soit pas confronté à un de ces soucis-là d'une minorité qui est encore plus mise en minorité, oubliée. Et voilà, et c'est vrai que ça m'énerve quand même. Alors, il y a eu Angoulême, là, hein, ces nominations au palmarès d'Angoulême, où il n'y avait pas une femme. Alors, je dois avouer que la première fois que j'ai entendu l'information, je me suis dit peut-être que cette année, il n'y avait peut-être pas une BD féminine qui valait le coup. La question peut se poser quand même aussi, sans qu'on passe pour machiste. Et je pense que c'est certainement ce qu'a voulu dire pour les Oscars Charlotte Rampling, qui a fait le buzz, parce qu'on l'a traité de raciste. Mais voilà, je me suis posé la question. Alors après... pour connaître un peu le monde de la BD, c'est un monde quand même fait de beaucoup d'hommes, mais où quand même certaines femmes ont beaucoup, beaucoup de talent. Donc effectivement, sortir la liste qu'ils ont sortie sans qu'il y ait une seule femme, c'est quand même assez hallucinant.
Oui, et puis sur les nominés aux Oscars, il y a quand même une liste qui est conséquente.
Pareil, très conséquente.
C'est vrai que ça peut poser question.
Voilà, quoi. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'acteurs d'acteur black dans les films outre-Atlantique. Donc effectivement, ça pose chaque fois question. Et c'est vrai que ça pose question sur ces petites formes de discrimination et de racisme très insidieuses finalement. Parce que...
Alors oui et non, parce que par exemple pour les États-Unis... Là, il y a quand même un gros problème, on le voit depuis quand même quelques mois, où les flics, quand même, qui tirent sur des jeunes, voire moins jeunes, qui sont souvent de couleur, c'est juste abominable, quand même.
Non, mais c'est clair.
Là, il y a quand même un problème qui n'est heureusement pas le même en France. Mais c'est vrai que là, les États-Unis, ils sont quand même confrontés à un retour en arrière, quoi.
Alors, on voit quand même aussi en France des actes
enfin, c'est pas dans la même mesure.
Oui, bien sûr. Et puis... raciste envers les juifs. Enfin, j'ai encore entendu une émission là récemment de ces juifs qui partent en Israël. J'ai perdu le nom ça a un nom de faire ça. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est pas pour rien. Enfin voilà, ça interpelle quand même. Ce sont vraiment des choses qui au quotidien interpellent. J'entendais donc. Alors bien évidemment, la grande excuse à tout ça, c'est la crise. Ouais, d'accord. Mais bon, le monde a connu d'autres crises et c'est pas pour autant que voilà, il faut devenir comme ça. Alors, j'entendais qu'aux États-Unis, justement, les Noirs américains sont beaucoup touchés parce que, quand tout va bien, ils peuvent accéder, c'est un ascenseur social, aux emplois publics. Mais comme on est en pleine crise, beaucoup d'emplois publics ont été, comme en France, sabordés, et ce sont eux, bien sûr, les premiers touchés. Donc, il y a à nouveau beaucoup de chômage dans leur catégorie. Et ils disparaissent de cet ascenseur social. Mais voilà, ce sont des constats quand même terribles dans nos sociétés modernes et occidentales. Alors, on parle des femmes à Angoulême, on parle des Noirs aux Oscars, mais je veux dire, les exemples peuvent être multipliés à l'envi dans plein de domaines. Bon, moi, ce qui me fait mal, c'est que c'est quand même des domaines artistiques où on peut espérer un peu plus d'ouverture d'esprit et un peu d'éducation, et qu'on se rend compte que là aussi, ça pêche, quoi.
On pourrait dire exactement la même chose dans le milieu politique. On aurait pu penser que les hommes politiques, justement, montrent l'exemple avec plus de femmes au pouvoir. Finalement, il a fallu une loi pour imposer fait qu'il y ait des femmes, autant de femmes que d'hommes lors d'une élection.
Et ceci n'empêche pas des réactions complètement déplacées pour en parler.
C'est hallucinant, quoi.
Alors, je cite Nathalie Kosciusko-Morizet qui répond à un journaliste, mais vous me parlez de mes cheveux détachés, est-ce qu'on se pose cette question-là pour un homme? Non, jamais, bien évidemment.
Alors, non, mais en même temps, il ne faut pas oublier, enfin, c'est juste une parenthèse, mais par exemple, moi, je me souviendrai toujours de l'analyse de Nathalie Saint-Cricq sur France 2, que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave.
France 2 ou Nathalie Saint-Cricq?
De Nathalie Saint-Cricq.
Nathalie, si tu nous écoutes.
Voilà, je trouve qu'elle a une tête d'alcoolo avec sa frange. Quand elle parle, on comprend rien. Enfin, moi, je l'aime pas du tout. Bref. Et alors, elle disait justement quand François Hollande a été élu.
Tape sur ton micro, ça ne s'entendra pas.
Voilà. Oh, bah dis donc. Quand François Hollande a été élu, oui, il a perdu beaucoup de poids et il y avait quand même, je crois que c'était dans l'émission des paroles et des actes, la comparaison de François Hollande il y a quelques années et de François Hollande maintenant. Bon, n'empêche qu'on aurait fait ça à une femme. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais on n'aurait pas du tout apprécié je sais pas, Nathalie Kosciusko-Morizet a perdu 5 kilos, elle en a pris 5, enfin tu vois, et elle a fait ça pour François Hollande. Donc voilà, ça veut bien dire aussi qu'on le fait parfois à des hommes.
Pas souvent quand même.
Pas souvent, ouais. Non mais pas souvent, je suis d'accord, pas souvent. Mais ça m'avait choquée, puisqu'elle est quand même du service politique, je crois même qu'elle est responsable du service politique de France 2. Et quand elle avait dit ça à des paroles et des actes, je me suis dit, mais on touche le fond quoi.
Mais c'est...
Après, enfin, c'était quand même un acte politique, entre guillemets, mais de petite politique de François Hollande, que de se présenter à cette candidature en ayant perdu ces kilos-là, qu'il a tout de suite repris d'ailleurs.
Peut-être un peu moins, mais...
Ouais, enfin, je pense qu'en ce moment, il n'est pas trop loin, mais il va falloir qu'il s'y remette s'il veut candidater en 2017.
C'est juste pour dire qu'on aurait fait ça pareil à une femme politique, de suite, on aurait montré les dents, quoi.
On est bien d'accord.
Mais on peut parler du fameux jean de...
Ouais, j'y pensais, de Cécile Duflot, au Conseil des ministres.
Alors qu'on voit à l'Assemblée espagnole récemment rentrer les dreadlocks... dans le Parlement.
Et pour revenir,
mais c'est aussi une forme de représentation de l'ensemble la population, et c'est peut-être aussi de ça qu'on.
Et je reviens aux Oscars américains. Loin de moi l'idée de jeter la pierre aux États-Unis. Hein. Je veux dire, quand on voit la représentativité des Blacks et des Beurs à la télévision française, je veux dire, on n'a pas de leçon à leur donner, quoi. Hein. Mais voilà,
il y a encore quelques années, il y avait quand même un présentateur de journal de 13h qui,
oui, tout à fait,
voilà, d'origine maghrébine, mais je sais pas, bizarrement, qui faisait d'ailleurs un très très beau duo et un très bon journaliste, qui a eu un bon mandat aussi au CSA et qui est maintenant n'a plus le droit de rien faire pendant quelques années, le temps de finir sa période de réserve, donc voilà.
Bon, on ne voit pas de moche non plus, hein, comme on le disait déjà.
Non, bien évidemment.
S'il y a peu de blacks et de beurre, il n'y a pas non plus de moche. Quoi.
Quand même, il se passe pas une semaine.
Et je vous rappelle que pour les moches, il y a quand même un site de rencontre.
Oui, Canary
nous a identifiés. Hein.
Tout espoir est permis. Donc. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, une nouvelle fois, pour dire qu'il y a des choses intolérables quand même au quotidien. Et voilà, c'est cette. C'est cette petite poussière qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, qu'il faut dénoncer quand on peut. Alors, je suis d'accord avec toi, Anne-Marie, hein, avec les contradictions que ça a, et qu'on le dénonce chez les autres et qu'on n'est pas forcément capable de le faire chez soi.
Et puis, alors, c'est pas un jeu de mots, mais c'est pas tout blanc ni tout noir.
Bien évidemment.
C'est que,
on est bien d'accord.
Voilà.
Non, mais après, c'est aussi peut-être de finalement se dire que. Il y a quand même un objectif à avoir aujourd'hui qui est celui de faire plus société.
Bien sûr.
Ce fameux vivre ensemble dont on parle beaucoup,
il faudra arrêter d'en parler et peut-être passer aux actes. Quoi.
C'est ça. Je pense
après, l'intérêt aussi de ces choses-là, alors justement, qu'arrive à révéler le milieu un peu starisé, soit de la BD, soit du cinéma, c'est que ça permet de mettre les choses en lumière et de les dénoncer un peu plus fortement. C'est beaucoup plus symbolique quand on voit la liste d'Hollywood que quand on parle de la simple société américaine et des bonnes antillaises qui sont juste bonnes, quoi. Hein.
Voilà.
Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour.
Il y a juste aussi des personnes dont on parle jamais. Ce sont des personnes handicapées quand même.
Bien sûr.
Voilà, parce que c'est vrai que bon, on parle des femmes ou des personnes de couleur. Les personnes handicapées, je crois qu'ils sont touchées par le chômage. Hein,
bien sûr.
Et puis alors là, pour le coup, on les voit pas du tout à la télé. On les voit très peu au cinéma, si on va par là. Mmh. Dans la famille Bélier, oui, il y en avait un seul qui était sourd et malentendant. Enfin, oui, malentendant et muet, c'était donc le jeune, le garçon. Frère. Voilà. Mais bon, voilà, bizarrement, là non plus, on n'en parle pas. Enfin, on met souvent en lumière des personnes de couleur ou
certaines
bien certaines
minorités
oui, bien concernant aussi les religions aussi. Mmh. Mais on ne parle jamais des personnes handicapées. Mmh. Donc, elles sont encore plus exclues que toutes les autres, j'ai l'impression.
La petite série, d'ailleurs, de France 2, Vestiaire, est super. Oui. Plus ou moins drôle suivant les soirs,
oui,
mais
ouais,
voilà.
Oui, c'est ça.
Moi, je trouve ça quand même le mérite.
Oui, voilà.
Une heure de grande
découverte,
de pointer des choses. C'est certains soirs très drôles, quoi.
Oui, et puis d'autres où. Ils sont peut-être un peu moins travaillés aussi.
Bien sûr.
Mais voilà, je voulais quand même parler des personnes handicapées parce qu'on les oublie toujours.
Mm. Très bien. Petit côté. Elle est un peu sœur, Anne-Marie. Oh. si, non, mais je la fréquente de plus en plus au quotidien, et si, je peux vous le dire, c'est une bonne âme.
Bon, et alors, tu nous fais écouter quoi comme chanson?
Alors, j'ai essayé d'être un peu cohérente avec tout ça. C'était une rubrique que j'avais envisagé de faire, puis le temps passe, et le 30e anniversaire est passé, puis on en a tellement entendu parler que... Comme on disait tout à l'heure, à force, on se lasse, même si moi, je ne me lasserai jamais de Daniel Balavoine. Mais bon, donc c'était le 30e anniversaire de sa disparition. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu contre ces choses-là, qui avait un discours fort, qui manque peut-être un peu à l'heure actuelle dans notre société. Donc j'ai choisi l'Aziza, bien sûr.
Dans
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et on sera pratiquement dans les temps, vous vous rendez compte?
Je crois que ça nous... Franchement, mauvais élève, c'est bien, hein, c'est plus court.
Bah puis bon, je pense qu'Anne-Marie et moi avions fait court aujourd'hui aussi.
Bah, j'ai pas eu le sentiment.
C'est toujours mon même timing à peu près.
D'accord, bah, c'est moi qui avais fait court en tous les cas. Bien, bah écoutez, on vous souhaite une bonne quinzaine. Comme d'habitude, vous pouvez nous réécouter le mardi à 19h, le jeudi à 12h30. Et puis bien sûr, nous retrouver sur 48fm.org.
N'hésitez pas.
Vos commentaires sont les bienvenus, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez toujours réclamer auprès d'Anne-Marie sa banane. Ça fait partie des...
Ou lui laisser un sextape dans sa boîte aux lettres.
Non, pas un sextape.
Un sextoy. Oh, pardon. Ouais, ou le sextape. Peu importe.
Je vais pas faire des cauchemars, hein, Caroline.
Bon, en tous les cas, passez une bonne semaine, amusez-vous.
Et réécoutez l'émission si vous voulez savoir voilà. Ce qu'a fait lever Caroline.
Voilà.
Ça sera le teasing de la quinzaine, c'est ça?
C'est ça.
Bah, je suis plus à ça près. Hein.
Allez, à bientôt. Bonne quinzaine.
Ciao, ciao.
Factuel, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.